Donc, l'Ahle Sunnah wal Jama'a, rahimullah ta'ala, leur position est de ne pas discuter et se disputer concernant ces versets et ces hadiths. Ça, c'est un principe chez eux. Il ne faut pas débattre de ce sujet. Comme ils n'ont pas débattu les premiers siècles, ils n'ont pas débattu de la question de l'Qadar al-Qadar. Ils n'ont pas débattu. Et je vous dis, en vérité, on doit dire l'Qadar al-Qadar. Ils n'ont pas l'Qadar al-Qadar. Donc, c'est plus correct. Allah yuqaddir summa yaqdi. C'est clair? Donc, ils n'ont pas débattu. Et le prophète sallam a même défendu à ses compagnons de débattre de la question de Qadar al-Qadar. Et c'est pour ça qu'ils ne parlaient pas de ça. Et ils n'ont pas perdu leur temps. Ils ont confiance en Dieu, ils avaient confiance en Dieu et ils agissaient au nom de Dieu. Confiance à Dieu et ils agissaient au nom de Dieu. Nahna, on n'a pas confiance en Dieu et on n'agit pas et on dit pourquoi Dieu nous fait-il ça? Donc, harira. On a une compréhension tout à fait erronée de Qadar al-Qadar. Donc, deuxième élément, c'est que pas d'interprétation, pas de ta'wil. Donc, ils évitaient le débat. Et c'est vrai, nous ne voyons pas de débat chez les compagnons sur ces questions-là. Jamais. On n'a pas de débat. Le débat va commencer avec l'époque des tabi'in. Des grands tabi'in, d'accord, des compagnons étaient là, mais c'est eux qui vont, ça va commencer entre eux. Et je vous ai dit, rappelez-vous, ça va commencer avec le Mu'tazila, qui vont quitter le cercle de Hassan al-Basri, rahimallah ta'ala, pour le péché majeur, et de là vont naître tous les débats théologiques. Mais avant, ils ne débattaient pas de ces questions-là. On n'a pas de texte. Donc, comme disait un de nos professeurs, donc le docteur Abdelmajid Najjar, donc, Nash'at al-Qadhaï al-Aqaïdi, c'est vraiment à Basra, surtout. Et à Koufa, que ça va commencer les débats. Et le premier débat, c'était autour du péché majeur. Murtakib al-Kabira. Et c'était concernant quoi? C'est que Sayyidina Ali, radiallahu anhu, lorsqu'ils l'ont assassiné, le débat a commencé. Parce que Sayyidina Ali, ils l'ont tué les Khawarij, parce qu'ils l'ont considéré qu'il commet un péché majeur. Et donc, c'est Damuhu Mubah. Donc, il faut le tuer. Parce que chez les Khawarij, celui qui commet un péché majeur, il boit, ou il ment, il prie pas, on le tue. On ne lui donne même pas de temps. Il est tué et il n'est pas enterré parmi nos morts. Kafir. Et donc, premier débat, c'était celle-là. Et lorsque Hassan al-Basri n'était pas d'accord, Wasl ibn Atta, son élève, va quitter son cercle. Et de là va naître I'tazala. Il va quitter, se retirer, et l'I'tizal va naître. Et donc, et après, on va voir tout émerger. Donc, premier débat, c'était celle-là. Le Murtakib al-Kabira. Donc, on est loin de la question de Sifat. Les compagnons n'en parlaient pas. Donc, ils avaient ce principe. On ne débat pas de ce sujet. Pas de débat. Hein? Deuxièmement, pas d'interprétation ni d'explication ou de commentaires détaillés. Parce que si on commence à faire du commentaire détaillé, on va tomber dans Tashbih ou Tashsim ou dans l'autre position de Ta'wil. Ils sont contre l'interprétation ni et contre le fait de prendre le sens à la lettre des termes et contre aussi le fait d'infirmer. Donc ils n'étaient pas ni avec le Mujassima, ni avec le Mu'awila, ni avec le Mu'attila. Ils n'étaient pas d'accord avec ça, Salaf Salah. Pas de ta'til, on n'affirme pas. Pas de ta'wil, on n'interprète pas. Et pas de tajsim, on n'assimile pas. Et donc c'est pour ça que leur position elle est tout à fait claire. On ne débat pas de ce sujet-là, pas de débat. Deux, on n'interprète pas. Et lorsqu'on explique, on n'explique pas dans le détail, mais on se limite à affirmer ce que Dieu s'est affirmé lui-même à son être. Avec l'exemption de l'être de Dieu à toute similitude envers avec la création. Donc c'est la logique, c'est la trame qu'on a tout à l'heure expliquée, leur position de base. C'est-à-dire, maintenant je vais être clair avec vous, c'est-à-dire qu'ils vont, puisque j'ai dit ils tiennent à la question du tanzih, j'ai dit ils sont d'accord tous pour exempter Dieu, donc ils ne vont pas débattre, ils ne vont pas interpréter, ils ne vont pas assimiler, ils ne vont pas infirmer, mais nous allons voir, certains des salafs vont être obligés, pour être logiques avec eux-mêmes, puisqu'ils ont dit on doit exempter Dieu, ils vont interpréter certains versets, les hadiths. Ils vont le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont rester dans leur logique. Donc on n'infirme pas, on n'assimile pas, nous avons dit on n'interprète pas, mais on doit exempter. Tanzih. Il faut qu'il soit de présent. Et alors, je vais vous donner quelques versets où, parce qu'ils ont trouvé que ça va à l'encontre de leurs principes et leurs méthodes. Ainsi, par exemple, le verset 39 de Sourate Taha, lorsqu'il s'agit de Sayyidina Moussa alayhi salam, Dieu dit walitusna ala ayni, donc si je traduis afin que tu sois élevé sous mon œil, c'est ça, sous mes yeux, c'est ça, si on traduit. Donc il dit, donc ils vont, donc c'est celui-là. Et puis vous avez aussi la sourate At-Tur, le verset 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Donc patiente face au décret de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Ils disent, si nous expliquons ces deux versets selon leur sens apparent, nous allons obliger le Coran d'être en contradiction avec lui-même. Les deux versets que j'ai cités tout à l'heure comme remarque, laysa kamithlihi shay, et l'autre verset, walam yakul lahu kufuwan ahad. Il dit ces deux versets, pour nous on les garde toujours. Et donc si nous allons accepter à la lettre, alors il dit ceci. Je vous donne la position. Ils disent فَالسَّلَفُ أَوَّلُ تَأْوِيلًا إِجْمَالِيًا. Les salafs vont interpréter, mais une interprétation globale et non pas détaillée. Ce qui ne va pas être la position de l'khalaf. L'khalaf, ils vont interpréter, ils vont nier beaucoup de choses. Parmi Ahl Sunna ou Al-Jama'a, je parle ici. Je ne parle plus maintenant des autres, je parle à l'intérieur d'Ahl Sunna ou Al-Jama'a. Donc Ahl Sunna ou Al-Jama'a, je répète, ils ont évité les débats, évité toute interprétation, évité d'infirmer, tartil, évité tajsim, mais ils ont gardé à l'esprit omniprésent l'exemption, tanzi, et ils ont dit, n'oubliez pas qu'il y a des versets qui parlent de cela, comme laysa kamithlihi shay, comme lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, il y a certains versets qui vont interpréter, mais ils disent, les spécialistes, ta'wilan ijmaliyan, une interprétation globale et non pas détaillée. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne vont pas faire d'une interprétation détaillée? C'est-à-dire, ils ne vont pas nous expliquer le comment. Ils ne vont pas entrer dans le débat. Donc, ils affirment à Dieu ce qu'il s'est affirmé, mais il dit, il ne faut pas que vous, ce verset ici, pour nous, ce n'est pas dans le sens œil. Ces versets ici. Je parle de ces deux versets, comme pour Sayyidina Nuh, Sayyidina Moussa alayhi salam. Pour eux, il dit, ce n'est pas des yeux ici dont il est question. Ils vont dire, donc, nous considérons cela comme une sorte de sens global. Alors, je vous donne ici, l'imam al-Nawawi, vous savez que l'imam al-Nawawi a fait un tafsir de l'imam de Sahih Muslim. Il a commenté tout le Sahih de Muslim, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et donc, dans son commentaire sur le Sahih Muslim, il y a un hadith de Rasulullah sallam, dans lequel Dieu dit, « L'Allahu ashaddu farahan bitawbati abdihi ». Vous connaissez le « L'Allah aussi, c'est pour jurer ». Très certainement, l'homme ta'kid est halaf ici. Donc, très certainement, je jure que Dieu, il est plus heureux du repentir de son serviteur que la mère qui retrouve son enfant perdu. Donc, ici le farah, la joie. L'imam al-Nawawi a dit, l'imam al-Maziri a dit. Vous n'avez jamais entendu parler de cet imam, l'imam al-Maziri. L'imam al-Maziri est considéré comme un des derniers érudits mujtahid du XIIIe siècle. 12e, 13e. Il a vécu en Afrique du Nord. C'est un des derniers savants de Qayrawan du temps. Et son nom de famille, c'est, comme vous voyez, c'est le Mazari, c'est de Mazara, en Sicile, où les musulmans sont restés plus de 350 ans qu'ils ont perdu, comme ils ont perdu l'Andalousie. Bien sûr, la Sicile était musulmane plus de 350 ans. Grande civilisation, il y avait là-bas des écoles coraniques, des médersas, tout ce que vous pouvez imaginer, des mosquées, tout. Et c'est pour ça que toutes les familles Sqalli viennent de là. Et toute famille Mazri, le Maziri, c'est de Mazara. C'est un grand savant qui est venu vivre à Kairouan. Il est considéré comme un mujtahid mutlaq. Et vous trouvez ses avis dans beaucoup de livres de fiqh, de hadith, de tafsir Qur'an. L'imam al-Maziri, il est connu. Et l'imam muslim parle de lui. Donc l'imam muslim prend la référence de l'imam Maziri. Qu'est-ce qu'il dit? Donc l'imam al-Maziri a dit, la joie se divise en deux sortes, ou en plusieurs sortes, si vous voulez. La joie se subdivise en plusieurs sortes. Il y a as-surur, le contentement. As-surur, le contentement. Et plus proche de, du contentement, il y a Ar-Rida, la satisfaction du sujet qui est à l'origine de notre contentement. Donc je répète, il dit, la joie se subdivise en plusieurs sortes. Vous avez donc As-Surur, il parle de Farah, lui, il explique qu'est-ce que veut dire être joyeux, Farhan. Al-Farah, il en découle As-Surur, contentement. Et plus proche du contentement, Ar-Rida, être satisfait. Il dit, et le sens voulu ici, c'est qu'Allah est satisfait du repentir de son serviteur plus que l'est celui qui est satisfait d'avoir retrouvé sa bête perdue. Donc il explique, donc l'imam muslim nous dit ce que dit l'imam al-Maziri. Vous voyez, il n'a pas renié, il n'a pas refusé le mot farah. Qui est dans le hadith. Mais il dit, faites attention. Parce que nous, le farah, il va être accompagné de bruit, de larmes et tout. C'est Dieu, il ne va pas faire ça. Subhanahu wa ta'ala. Là, on tombe dans le teshbih ou le teshsim. C'est dangereux. Donc, il affirme, mais il dit, faites attention. Al-farahu anwa'. Hunaka as-surur wa hunaka ar-rida. Je suis tellement satisfait. C'est un sentiment. Et non pas question de sur le visage, des signes, etc. Et il dit, et le sens qu'on donne ici, c'est « Allah yarda ». Il est tellement satisfait que son, alors, du retour de son serviteur à lui, du repentant. Comme l'est, parce que le hadith aussi parle de cet homme-là qui s'est endormi et puis il s'est réveillé, il n'a pas bien attaché sa bête sur laquelle il y avait, au-dessus de laquelle il y avait sa nourriture, sa boisson. Il était dans le désert et il est parti. Il a cherché partout, désespéré, il s'est même fait un trou et puis il s'est laissé mourir. Parce qu'il n'y a plus rien, impossible qu'il retrouve. Et le sommeil l'a pris, lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé sa bête au-dessus de sa tête, elle était là. Il était tellement heureux que sa satisfaction, il a dit, Seigneur, tu es mon serviteur, je suis ton Dieu. Tellement il était heureux, et il ne savait plus quoi dire. Et donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Dieu il est plus satisfait, si je traduis selon ce qu'a dit l'imam al-Mazir ici, selon l'imam muslim. Plus satisfait de repentir son serviteur que cet homme qui a perdu sa bête là, alors qu'il était dans un endroit isolé, et il exprime par cette joie, par ce farah qui est propre aux humains. Il dit, alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme farah, d'après le sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est pour insister sur le degré de satisfaction de Dieu du repentir de son serviteur. Donc Dieu a utilisé un terme propre aux humains, si j'ai bien compris moi aussi, pourquoi ? Min bab al-mubalagha wa at-taqrir, et pour affirmer la qualité de ce contentement divin du repentir de son serviteur, du serviteur. Si je n'en prends pas cette formule-là, nous allons traduire d'une manière littéraliste, où il y a le risque de tashbih, tashsim, Allah, il est heureux et content, j'utilise les termes humains, que son serviteur repentant revienne à lui. Et alors, celui qui n'a pas la capacité d'analyser, il va imaginer Dieu exprimer sa joie comme la nôtre. Et moi, j'ai vu des textes où on dit clairement, les harfiyins, ils disent, Allah yafhaku kafahakina, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire avec le son et la joie et tout que l'humain manifeste. D'où le danger. Donc, l'imam Abul Faraj Ibn al-Jawzi, dans son livre Dafa Shubhat al-Tashbih, réfutation de quoi? De l'ambiguïté de l'assimilationnisme. Et vous savez très bien qui est Ibn al-Jawzi. Il dit, la position des salafs, je vous donne le texte vraiment texto. La position des salafs, c'est de ne pas prendre ces versets et ces hadiths selon leur sens apparent. Et de se taire d'une manière globale, dans la recherche des significations de ces termes. Se taire, comme a fait l'imam Malik, il s'est tué. J'affirme, mais je me tais. Et il nous dit, et si vous vous soulevez la question, vous êtes des innovateurs. Mubtadi'a. Et les Mubtadi'a, bien sûr, ils sont sanctionnés. Dans le premier siècle, ils étaient punis. Hein, parce que c'est mis la zizanie. C'est clair? Et puis après, il dit, en réfutant la position de ceux qui prennent le sens apparent des versets, donc il ne va pas se limiter à ça uniquement, hein, mais il va aller vraiment à réfuter ceux qui les prennent selon leur signification apparente en se rapportant, en faisant valoir beaucoup d'arguments de la position des salafs. Donc, d'un côté, il dit, la position des salafs, c'est d'affirmer le sens global, sans entrer dans le détail. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire d'éviter ce qu'on appelle le ta'wil, les filles, non, mais le ta'wil, détail. C'est la même position. Et puis après, il dit, et ceux qui vont affirmer leur signification selon le sens apparent, eux aussi, il ne faut pas se tenir à leur avis. Donc, on affirme, sens global, sans entrer dans le détail, et il attaque ceux qui donne une signification littéraliste des termes. Ça, c'est ce que dit donc Ibn al-Jawzi dans son livre Daf'a Shubhat al-Tashbih. Ça, donc, je vais revenir encore, hein, mais je suis en train de vous donner quand même, en résumé, cette fois-ci, inshallah, la position de Ahl-Sunnah. Maintenant, quelle est la position de leurs successeurs? C'est-à-dire, on va parler du 4e siècle et plus. Bien sûr, on va avoir, à partir du 4e siècle et plus, ceux qui vont se tenir à la position des prédécesseurs, ça c'est clair, il y en a. Je n'ai pas dit qu'ils ont disparu, hein. Mais j'ai dit, est apparu dans notre communauté, dans Ahl-Sunnah wal-Jama'a, un courant de grands savants dont je vais citer certains noms pour que vous ne mettez pas en cause, à la légère, parce que moi j'ai lu des livres où on le considère comme faisant partie d'une secte. Alors que je parle de qui ici? Je parle des mêmes Nawawi, hein. Je parle des mêmes Fardin al-Razi, je parle des mêmes al-Bukhari, je parle des mêmes celui qui a commenté le Ibn Hajar al-Asqalani, je ne parle pas de n'importe qui ici, hein. Je parle des grands savants de l'islam, hein, que vous connaissez tous et dont vous lisez les lectures, et qui sont un grand nombre. C'est cela qu'on appelle le khalaf. Donc je ne parle pas d'un pseudo-savant inconnu qui a commencé à dire n'importe quoi. Hein. Je parle de savants donc, qui ont les qualités requises et qui sont considérés comme tels. Donc, le khalaf, donc, je cite parmi eux, je cite exprès Ibn al-Jawzi parmi eux, hein. Al-Hambali, l'imam al-Nawawi, Abu Hamid al-Ghazali, l'imam Fakhreddin al-Razi, Baydawi, donc des exégètes du Coran très connus, jusqu'à Shirtar ibn Ashur, le contemporain. Donc je parle de cela. Alors qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent, rahimullah ta'ala, sachez que les textes du Coran, lorsqu'il s'agit d'attributs de Dieu, on ne doit pas les lire et les comprendre selon leur sens apparent. Tel que le verset 39 de la sourate Taha. « وَلَتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِ » Pour que tu sois, donc j'ai dit « sana » veut dire « éduqué » sous mes yeux. Il dit « tel que ce verset, nous ne pouvons pas » Il dit « parce que si nous prenons ce verset de la sourate Taha, la sourate 20, le verset 39, nous le prenons, ce verset, selon son sens apparent, ça veut dire que Moussa est installé. Il s'est installé ou installé, quoi? Contre l'œil de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme s'il est attaché à l'œil de Dieu. Physiquement. Si on prend ce verset à la lecture, il dit, قَوْلُ تَعَالَ وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ. Il n'a pas dit tahta, sous mes yeux, c'est-à-dire le regard. Non, ala ici veut dire en arabe, c'est-à-dire que al-fawqiyya ou al-iltisa. Le sens dans la langue arabe ici de la particule ala veut dire soit au-dessus, soit contre. Alors si on prend, il dit, on le prend selon le sens littéral, donc Dieu, Moïse, il est contre l'œil de Dieu. Et il dit, et cela est impossible qu'un sensé l'accepte. Aucun sensé ne peut accepter ce sens. D'où la nécessité d'interpréter ce verset. Ce verset, il dit, on est obligé, et alors le sens viendra, ici veut dire, sous ma bienveillance. Lorsque vous dites, mes enfants sont sous mon regard, ça veut dire, je suis en train de les surveiller. Je suis attentif à eux. Donc il va, de toute façon, il dit, ici, ala ayn, il veut dire, al-inayatu wal-hirasatu, bienveillance et protection. De même, lorsque, dans le hadith muslim, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le cœur du croyant est entre deux doigts du très miséricordieux. Il dit, on ne le prend pas, on ne prend pas le doigt ici dans le sens doigt, mais c'est-à-dire la capacité qudra de Dieu. C'est-à-dire, Allah est capable, que Dieu nous en préserve. Le cœur du croyant, il est mort, mais demain, il en fait un kafir. Allah est capable. Comme il est capable, subhanahu wa ta'ala, celui qui est loin de Dieu, demain, il le ramène vers lui. Ils disent donc, on prend le doigt ici dans le sens, la capacité de Dieu, qudratullah, subhanahu wa ta'ala, an yuqalliba, qu'il tourne le cœur du fils d'Adam comme il le désire, subhanahu wa ta'ala. Et non pas que votre cœur et mon cœur, il est entre deux doigts maintenant de Dieu. Parce qu'il parle de ça, il parle de nous. Donc il parle de nous, il dit donc, c'est pas donc les doigts dans le sens doigt, dans ce. Il parle dans ce hadith. Hein. Vous allez me dire, mais les premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interprété là où il était impossible parce que ça va à l'encontre de la méthodologie qu'ils sont fixés. Je rappelle leur méthodologie, on ne débat pas, on n'infirme pas, on n'assimile pas, on n'interprète pas, mais aussi, ils disent, on doit garder devant nos yeux deux principes. L'exemption de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne faut pas que notre explication contredise le Coran. Comme, laissa kamithlihi shay, comme, walam yakul lahu kufuwan ahad. Et c'est pour ça, ils ont refusé l'interprétation, et dans certains versets, ils vont interpréter sans entrer dans le détail. Les derniers, ils vont interpréter, et nous allons voir, dans certains passages même, ils vont aller dans le détail. Ils ne vont pas accepter de faire passer. Ils vont interpréter même le verset dans la sourate Taha, Ar-Rahman, que je vous ai dit que l'imam Malik rahimahullah a dit Al-Istiwa'u. Donc, ma'loum, le fait que Dieu est assis, on le sait. Le comment, on l'ignore, et su'al ou anhu bid'a, et le fait de poser la question est une innovation. Même ce verset, eux, ils vont l'interpréter. Ils vont l'interpréter et ils vont dire, comme ça je donne un avant-goût, ils vont dire, ici, al-istiwa, c'est pas le fait d'être assis. Et ils vont se référer, bien sûr, à la langue arabe. Ils vont pas faire ça de leur tête, hein, parce qu'ils ont des arguments. Et ils vont dire, ils vont apporter un vers de poésie arabe ancien, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, si on veut comprendre le Coran et les hadiths de Rasulullah, il faut aller vers la langue arabe pure, celle des premiers d'avant l'islam. Et alors, vous avez ici un vers de poésie qu'ils citent comme appui. Ils disent Sha'ir qala sha'iru istawa bishrun ala al-iraqi min ghayri biduni sayfin min ghayri sayfin aw damin mihraqi. Bishr a eu une mainmise sur tout l'Irak sans avoir utilisé d'épée ni effusion de sang. Alors, istawa ici veut dire il a eu sa main sur tout le territoire. Fal istiwa dans la langue arabe veut dire aussi avoir le pouvoir et la mainmise. Et alors, ils ont expliqué Ar-Rahman al-Arsh istawa, c'est-à-dire Dieu, il a une mainmise totale sur son trône et sur son l'univers qu'il a créé. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est qu'ils ont l'interprétation qu'ils ont donnée. Parce qu'ils ont vu, maintenant, comme je vous ai dit, pourquoi est-ce que les suiveurs ont interprété? Parce qu'ils sont trouvés dans la mêlée de Tashim et de Tashbih, ce que les premiers n'ont pas vécu. Les premiers n'ont pas vécu ces siècles où il y a eu tellement de débats théologiques et dans la Ummah il y a eu une fitna inimaginable. Hein. Ils sont trouvés dans la mêlée où les gens assimilaient. Et que beaucoup des gens de la masse sont entrés dedans. Ils ont commencé à imaginer Dieu comme une créature. Jusqu'à ce qu'est apparu après, avec les mystiques surtout, la doctrine de la fusion en Dieu. Hein. C'est-à-dire la doctrine chrétienne. Et aussi des pays de l'Extrême-Orient sont arrivés. Et alors, le type, il vous dit, le halal, il vous dit, dans ma jubba, il y a Dieu. Et alors, on a vu naître quoi? Ils ont même dispensé les musulmans du pèlerinage et de la prière. Si Dieu, il est en toi, pourquoi tu vas aller prier? Et s'il est en toi, pourquoi tu vas faire le hajj? Donc, on a eu la doctrine de la fusion. Et on a eu la doctrine, donc c'est le houloul, et il y a eu la doctrine de l'ittihad. C'est-à-dire, la personne est unie à Dieu. C'est-à-dire, c'est une catastrophe. Et donc, eux, lorsqu'ils se sont trouvés dans cette mêlée de débats théologiques où il y a eu confusion, surtout auprès de la masse, ils ont dit, eh ben, le secours pour la masse, c'est de donner une explication claire, simple, et on passe. Alors, à l'estiwa, on ne parle plus de Dieu est assis, parce que les gens ont commencé à s'imaginer comment est-ce qu'il est assis. Il rit, ah ben, comment est-ce qu'il rit? La main, quelle main il a? Et c'est devenu un débat. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu, ses deux mains sont droites. Quoi? Dieu a deux droites, il est droitier. Et le débat, alors ils ont dit, bah, non, sacre le bébé, on va fermer cette porte. Et vu que la langue arabe nous donne la possibilité d'interpréter, on va faire échapper les musulmans à cette fitna, et alors on va interpréter. Et ils vont interpréter. Les pieds, la main, tout, ils vont interpréter. Pour que le débat s'arrête. On peut leur en vouloir, il n'y a aucun problème sur ça, mais sur certains versets, ils rejoignent les salafs, comme j'ai dit, parce qu'ils ont dû interpréter, parce que ça va à l'encontre du principe du tawhid. Parce qu'aucun, ni parmi les prédécesseurs, ni les suiveurs, n'acceptera l'idée que Dieu descend corps, comme un corps, dans le ciel. Ça, et donc, ils vont interpréter. Et cela, comme j'ai dit, même des savants comme Ibn al-Jawzi et d'autres affiliés à la tendance de l'imam Ahmad, ne vont plus être d'accord avec la tendance de l'imam Ahmad et tout, ils vont interpréter, parce que ça va à l'encontre de ce qui sont fixés comme conditions. Tanzih, et prendre en considération. Il ne faut pas mettre le Coran en contradiction entre lui-même. Donc voilà, donc ça c'est donc ici nous avons l'imam al-Nawawi rahimullah ta'ala dit que les salaf al-salih ils ont amarru ayat wa hadith sifat, ils les ont fait passer sans entrer dans leur interprétation, mais ils ont interprété là où ils étaient obligés d'interpréter. Donc je résume, l'imam al-Nawawi nous dit les salaf al-salih rahimullah ta'ala ils ont fait passer les versets et les hadiths se rapportant aux attributs, ils les ont fait passer selon leur sens, mais ils ont dû interpréter certains, mais une interprétation globale, comme j'ai dit, sans entrer dans le détail, tandis que leurs suiveurs, ils ont interprété dans le détail, ils ont interprété donc dans le détail, le point commun entre les prédécesseurs et leurs suiveurs, c'est qu'ils ont interprété certains, donc certains, ils sont d'accord que certains versets et hadiths sont nécessairement, ils doivent être nécessairement interprétés. Ils sont d'accord sur ça. Mais la différence, c'est que le premier ont interprété globalement, et les seconds vont interpréter dans le détail. Ça va? Et celui qui vous dit que salaf al-salih ont interprété est un ignorant. Je vous dis les choses clairement parce que c'est ce que j'ai trouvé dans tous les ouvrages que j'ai lus. Les salaf, ils étaient obligés d'interpréter certains versets et hadiths. Tandis que les suiveurs vont interpréter tout et dans le détail. Et les salaf, comme j'ai dit, ils ont interprété d'une manière globale, sans entrer dans le détail. Mais l'interprétation, elle a eu lieu. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit dans son commentaire de Muslim, concernant le hadith que vous connaissez, le hadith al-Jariya, c'est celui-là qui a le débat. Si cette femme-là, un compagnon a voulu libérer une esclave, et le prophète a voulu la tester pour voir si elle était croyante ou non, parce qu'on ne peut pas, surtout elle est mu'mina, on ne peut pas garder un croyant. Alors le prophète lui a dit, oui, Dieu lui a dit dans le ciel, fais sama. Moi je traduis sama, excusez-moi, parce que le français ne me donne pas la possibilité. Mais sama ne peut pas dire dans la langue arabe, sama veut dire forcément le ciel. Parce qu'il y a soumou, veut dire l'ulou, le haut. Pas forcément. Parce qu'on dit sama, c'est pas forcément le ciel. Et on parle donc, lorsqu'on dit sama, un tel, c'est-à-dire il s'est élevé. Voilà. Donc il ne faut pas y aller dans le sens, parce que dans le Dissama, on tombe dans le piège là, dont j'ai parlé tout à l'heure concernant la surat al-Mulk. Et donc, lorsqu'elle a dit cela, le prophète lui a dit, libère-la, elle est croyante. Et donc, et certains, ils ont pris donc, ce verset à la lettre. Alors il dit ici, l'imam muslim, concernant donc l'imam al-Nawawi, dans son commentaire du hadith qui est rapporté par muslim de la Jariya, d'après le Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, pour votre culture générale, puisque toujours... on a plus de frères et de sœurs marocains ici, c'est pour ça que je donne des informations parfois sur le Maroc. Le Qadi Iyad al-Sabti, le Sabta, rahimahullah ta'ala, c'est un des plus grands savants du malikisme. Beaucoup de jeunes ne le connaissent qu'uniquement son livre Shifa, qui est traduit en français. Mais il a beaucoup d'autres ouvrages, de fiqh et de biographies, historiens. C'est une sommité, c'est une référence. Vous le trouvez aussi dans beaucoup de livres de tafsir, d'exégèse, même des savants musulmans d'Orient. On parle de lui, Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala. Sibti al-Yahsoubi, Donc ça c'est son nom. Donc le Qadi Iyad, il dit, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de divergence absolue entre tous les musulmans, juristes, muhaddith, théologiens scolastiques, et même savants dans la controverse, et même les conformistes. Je répète, il dit, il n'y a pas, pour lui il y a unanimité, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de contradiction entre les musulmans, tous les musulmans, qu'ils soient faqih, muhaddith, mutakallim, nazarihim, c'est-à-dire les savants de l'opinion. Ni, il dit, muqallidihim, ni le conformiste d'entre eux. Que les versets où Dieu parle de ciel, ou les versets où Dieu parle, et les hadiths où Dieu parle, où on parle de ciel, tels que le verset de la sourate Al-Mulk, le verset 16, qu'on ne peut pas la comprendre selon sa signification apparente. Ce verset, comme d'autres, est son sujet d'interprétation chez eux tous, il dit. Il a, moi, je traduis ce qu'il dit. Il n'a pas dit fuqaha ici, il a dit même ulama al-hadith. Donc je répète, je vous la donne en arabe, hein, et comme ça je la traduis. Il a dit, donc l'imam muslim, Nawawi, dans son sharh de muslim, lorsqu'il a, interprété, il a expliqué au commentateur le hadith de l'Jariya, d'après le Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, qui a dit, la khilafa bayna al-muslimina, la khilafa bayna al-muslimina, qatibatan, tous, qatib va dire ici tous, faqihihim, wa muhaddithihim, wa mutakallimihim, spécialisé dans la théologie, wa nuzzarihim, ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء, que le sens donc apparent des versets ou des hadiths qui parlent que Dieu est dans le ciel, comme مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوها, et tous les versets similaires, donc il parle ici, dit tous les versets et tous les hadiths qui parlent de Dieu dans le ciel. Il dit, tous ils sont unanimes. Laysat ala zahiriha, bal mutaawilatan anda jami'ihim. On ne doit pas les prendre selon leur sens apparent, mais tous les versets, tous les hadiths où on parle de Dieu dans le ciel sont tous à interpréter. Parce que là, comme je vous ai dit, ça, il y a unanimité, puisque Jaouzi parle même des positions des prédécesseurs, qu'il est hors de question que nous, musulmans sensés, qui croyons dans l'unicité de Dieu et, son, et qu'il est un être absolu, qu'on le considère qu'il est dans le ciel. Vous savez, même dans l'univers, on va plus loin. Parce que le ulama dit al-alam huwa kullu ma huwa ma'loum. Al-alam, c'est tout ce qui est su. Wallahu siwa al-alam. Allah est autre chose que le monde créé, que l'univers. Et puis après, on dit que Dieu est dedans. Ça ne va pas. Il ne faut pas être savant pour ne pas accepter ça. Comme musulmans qui ont le tawhid, wa anna al-alam min khalq Allah, que l'univers est de la création de Dieu, vous ne pouvez pas concevoir que Dieu il fait partie de ce qu'il a créé. Impossible. Parce que pour nous, Dieu, il est en dehors du temps et de l'espace. Allah kharij az-zaman wal makan, Allah. C'est ce qu'ils disent dans l'aqid, c'est ce que nous avions dit dans notre introduction lorsqu'on parlait de Dieu, son existence. Alors d'un côté on dit que Dieu il est en dehors du temps et de l'espace, et après on va dire qu'il fait partie de l'espace. Il est dedans. C'est aberrant. C'est pour ça qu'il dit, donc il dit tous, pour tout ce qui chaque fois que dans un verset au hadith, on parle de Dieu qui est dans le ciel, فَلَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا بَلْ مُتَأَوِّلَةٌ عَنْدَ جَمِعِهِمْ. Chez eux tous, il faut interpréter. Dès que vous entendez qu'on parle Dieu est dans le ciel. Surtout celui-là. Voilà, donc, je m'arrête à ce niveau-ci, inshallah ta'ala, donc, pour vous laisser la parole pour quelques minutes, avant de se séparer, les frères vont faire le maghrib, et les soeurs, celles qui veulent faire le maghrib, inshallah, bientôt, sauf ceux qui doivent partir. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de choses, il nous reste ayat wa hadith sifat, puis on parlera de ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, la vision de Dieu, et tout ce qui a été cité sur ce sujet, et puis nous parlerons de Asma Allah al-Husna, inshallah. Surtout, est-ce que les noms de Dieu sont uniquement ceux qui sont recensés dans le hadith de Tirmidhi de Muslim 99, ou est-ce qu'il y a d'autres noms? Quelle est la différence entre les noms de Dieu, sans entrer dans les détails, mais au moins on saura. Et puis, quelle est la différence entre les noms et les attributs? Et donc, on conclura, Inch'Allah, comme ça, avec tout ce sujet. Et s'il nous reste du temps, alors le mercredi, donc, où on n'aura plus d'aqidah, on le reprendra pour les livres de Ibn Qayyim, Inch'Allah, le reste de la fin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mais je n'ai pas terminé ce sujet, donc je vais revenir avec des positions de l'imam Shawkani, rahimullah ta'ala, et ce qu'il dit concernant donc, ces hadith ayat sifat. Et un résumé encore, un autre résumé exprès, pour que comme ça vous faites la différence entre madhab al-salaf ou al-khalaf, et qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les différencie, et que ce sujet soit une fois pour toutes clair, inshallah, dans votre esprit. Je vous donne, inshallah, la possibilité de poser des questions ou d'avancer, inshallah, dans le débat. Je vous écoute. Non. Takif. Non, sans kaif veut dire. Bila, c'est dire en. Là, ici, bila kaifin, c'est-à-dire sans S-A-N-S, qu'on donne une forme. C'est mais il est takif. C'est ce qu'il a dit. Nous croyons sans essayer de donner une image, une forme à ce que nous affirmons. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, l'arche, par exemple, il ne faut pas que tu perdes ton temps à essayer d'imaginer un trône. Et ne perds pas ton temps à savoir comment Dieu est assis. C'est ce que voulait dire l'imam Malik. Parce que tu vas tomber dans le tajsim. Tu vas tomber dans le tajsim. Donc on affirme, mais sans permettre à notre esprit d'aller vagabonder pour essayer d'imaginer le comment. Parce qu'on ne saura pas. Comme l'être de Dieu nous échappe, tout ce qui s'attribue à lui nous échappe. Je ne sais pas, tu me pousses vers quelque chose que l'imam Malik a dit, faut pas en débattre, c'est une bédah, pose-la toi-même si tu veux prendre le risque, hein, mais pas moi. Mais comment?
Non, c'est parce que comme
non, je ne sais pas.
Non, je sais bien.
Allahu a'lam.
Comme ils disent, on ne connaît pas le comment.
Je ne peux pas te répondre, je ne peux rien te dire. Je ne peux pas te dire qu'il y a un comment. Parce que déjà, poser la question est une bédah, alors moi, je ne me risquais pas. Non. Où Fawqa Sama? C'est ça la question, c'est une belle, belle question. Je suis d'accord avec toi. Mais Sama, donc le ciel uniquement ou l'univers, on veut dire? Parce que Sama, c'est pas uniquement la terre, hein, c'est-à-dire c'est l'espace. Puisque Dieu a dit, elle a dit Khalaqa Sab'a Samawatin. Sab'a Samawat. Donc, premier ciel, deuxième ciel, toujours c'est les cieux. Donc, Dieu, il n'est pas ni dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le septième. Alors il est où? Il est en dehors du temps et de l'espace. Le comment, je ne saurais pas. Ni toi ni moi, on peut imaginer. Donc ce n'est pas le premier ciel dont il est question. Parce que Dieu, dans le Coran et le Hadith, le prophète dans le Hadith, il parle des cieux en termes de ciel aussi, Sama. Et parfois il parle de Sama Awad. Mais toujours on parle de l'univers créé. Ben, on n'échappe pas, on est toujours dans l'univers créé. Le principe, vraiment, il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas, qu'il nous est interdit d'inclure Dieu dans le monde créé. Ça, c'est un principe sur lequel on ne doit pas discuter ni faire des concessions. Allah, il ne peut pas être ni inclus, faire partie d'un univers créé. Puisqu'ils disent, il n'est pas limité ni dans une direction. Tous, ils disent, Allah, laisse fi jiha. Wa laisse lahu awwalun, wa laisse lahu nihaya. Il n'est pas une masse mesurable. Il n'est pas un agrégat. Il n'est pas un composant de substance. Il n'est pas une matière. Il est l'absolu. Donc, il est en dehors du temps. Kana Allah wa lam yakun ma'ahu shay. C'est ça le principe. Dieu existait, rien n'était avec lui. Et puis, il a décidé de créer. Ce qu'il a créé ne peut pas faire partie de l'entité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu est en dehors de cela. Donc d'où les précautions, hein, il faut être vraiment... Nahna, on en parle ici. Franchement, si on était... Je suis sûr, si on était durant les premiers siècles, on nous aurait interdit de débattre de ça. Mais nous, on s'est trouvé dans la mêlée, nous. Nous, on est dans une croisée de chemin où on est en train, à l'intérieur de la communauté, de se chamailler sur ça, de nouveau. Alors, c'est pour ça qu'il était de mon devoir de vous en parler, pour que ce soit clair pour vous, une fois pour toutes, ce débat. Mais normalement, on n'a même pas à perdre notre temps. On a un principe, « Laisse kamithlihi shay, subhanahu wa ta'ala ». Il est en dehors du temps et de l'espace. Le monde est créé, comme le paradis et l'enfer sont créés. Et on s'arrête. Dieu nous parle de l'univers qu'il va le plier. Et on manatu samaa kaytay sijil lil kitab. Tu vois, le livre, lorsqu'on va le plier, le fermer, Dieu va faire comme ça à l'univers. Et Dieu va faire partir cet univers qu'il va, elle a dit sayatwi, qu'il va enrouler. Et on manatu samaa kaytay sijil lil kitab. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Comme nous avons fait commencé la première création, nous allons la refaire, Dieu dit. Wa'dan alayna inna kunna qadirin. Il était capable de cela, subhanahu wa ta'ala, il l'est toujours. Donc cet univers que Dieu va plier, comme on plie un sigil, un registre, est-ce qu'on peut imaginer que Dieu en fait partie? Lui qui dit, subhanahu wa ta'ala, que rien ne lui ressemble. C'est pour ça que j'ai dit, avec les désaccords entre salaf et khalaf, sont tous d'accord sur ce principe-là. D'où ce qu'a dit le qadi Iyad, qui sont tous unanimes, que tous les versets hadith où on parle de Dieu dans le ciel, c'est à interpréter. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas se permettre. Ibn al-Jab est allé dans ce sens-là. Alors qu'il est affilié à l'école de l'imam Ahmad. Qui est... dont Ibn Taymiyyah s'est influencé après aussi. L'imam Ahmad, c'est deuxième, troisième. Et l'imam Ibn Taymiyyah, c'est septième, huitième. Siècle. Ça va? Dernière question, inshallah. Et on... Oui. Bah, je trouve qu'il n'y a personne qui pose.
Moi, j'ai trois questions.
Vas-y, pose tes trois questions. Et tu vas y répondre, Inch'Allah.
On commence par le débat qui était entre l'imam Hassan al-Basri qui était à Tabari.
Non.
Donc, il a vécu avec.
Il a vu 500 compagnons, radiallahu
anhu. 500 compagnons, et au moment des débats, les compagnons, ils étaient encore vivants.
Oui.
Donc, je me demande, c'était quoi la position
des... Ils n'ont pas voulu rentrer dans cela. Par exemple, un comme Sayyidina Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que l'imam Hassan al-Basri a rencontré. Il fouillait les débats, il disait, nous avons appris. Et Hassan al-Basri a appris, mais nous avons oublié, lui, il ne sera pas là encore. Il s'est dit, allez poser à Hassan al-Basri, moi, je n'ai pas... Il a dit, Nassina, nous avons oublié. Il fouillait ces débats, les compagnons.
Pendant toute l'histoire, les 14 siècles, il n'y avait pas une tendance de suivre les savants, ils n'ont pas essayé de revenir à la position des compagnons.
Non, parce que les arguments sont là de l'une et l'autre tendance. La tendance de Salaf al-Salah, c'est la tendance qui réconforte ceux qui ont une foi forte et qui n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils avaient... Ils travaillaient sur Paul, là, c'est-à-dire la recherche de l'au-delà, et leur féliciter, l'ibadat, ou qiyam al-layl, ou dhikr, et en même temps, ils étaient occupés à propager l'islam, le futuhat. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec ça. Nahna, après, on a eu le temps. C'est clair, ils n'avaient pas le temps pour débattre. Eux, ils étaient, comme tu te rappelles la formule, ils étaient des dévots la nuit et des cavaliers le jour. Ils n'avaient pas d'autres préoccupations que cela. Après, lorsque le monde musulman s'agrandit avec les conversions et l'adhésion de personnes, de gens de cultures différentes et de doctrines différentes qui ont suscité volontairement et involontairement des débats dans la communauté, parce qu'il y a des débats volontaires aussi, pour semer la zizanie et tout, bah, ils sont dû s'atteler à tout cela, les savants musulmans. Et alors, ils se sont trouvés obligés, c'était même pas du luxe, obligés de débattre, ce dont les premières générations n'ont pas débattu. Tu ne peux pas laisser l'homme à toute seule. Et alors, ils ont commencé à faire des controverses. Déjà, ça a commencé avec Abu Hanifa. Les controverses avec les athées et les différentes tendances. Et les autres ont enchaîné. Et c'est normal, dans ce débat-là, va naître du courant à l'intérieur des musulmans eux-mêmes. Et je t'ai montré, par exemple, le débat et la scission entre Hassan al-Basri et ses élèves. Et Hassan ibn Atta, qui était son élève. Mais parce qu'il n'est pas d'accord, il est allé fermer son groupe. Alors, plus tu t'éloignes des compagnons de la porte des tabérines, bah, tu vas avoir des petits pseudo-savants qui vont former des groupes aussi. Hein? Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Et tu n'as qu'à regarder le paysage, c'est le même. Dès que lui, il connaît un peu, il commence à former un groupe et il appelle à ce qu'on le suive et les autres sont tous dans l'erreur, sauf sa personne. Et donc le débat n'était pas neutre à cause de l'interférence étrangère. Et à l'intérieur, il va y avoir l'égoïsme et des tas de choses. Hein. Et donc les partis pris et tout, et ce débat ne cesse de continuer. À certains moments, on a dit l'Omma Mskina, elle est morte. Elle a besoin d'un éveil, on s'est attelé à parler de choses essentielles pour l'éveil de cette communauté, mais malheureusement, dans notre communauté, des gens sont venus soulever de nouveau ces débats théologiques, qu'on a cru fini et qu'on ne va pas nous en parler, et hop, on nous en a parlé, et tu as des livres partout maintenant qui émergent. Pourquoi, ça c'est une autre question, pourquoi est-ce qu'on fait revivifier ces débats? Moi, je me suis toujours posé la question honnêtement, et j'ai mis un grand point d'interrogation pour certains de notre communauté qui sont en train de susciter ces débats stériles, qu'on a cru fini et qui sont en train de nouveau de nous diviser. Je me suis posé la question pour les gens qui sèment la division dans la communauté, jusqu'à maintenant. À qui profite, comme on dit? Si vous voulez chercher à qui profite le crime, vous verrez qui va en tirer profit. Parce que ce qui s'est passé avec l'ère des colonisations, on a eu un mouvement d'éveil et de réforme qui a commencé avec le 19e siècle, dans la Omma, pour unifier les musulmans, de nouveau. Donc il y a eu ce discours de ce qu'on appelle Jama'a al-Islamiyya ou Jami'a. Le mot Jami'a ou Jama'a veut dire que les musulmans retrouvent leur unité communautaire. Et donc on s'est focalisé sur quoi? Sur l'ignorance du monde musulman, le Jahl, revivifier la foi, mais une foi active, pas uniquement comme je vous expliquais théorique, je connais Dieu et un, etc. Mais comment est-ce qu'elle va influencer cette unicité de Dieu sur ma personne, dans ma façon d'agir dans la société, de faire bouleverser les choses comme a fait Rasulullah sallam lorsqu'il est venu avec le message du tawhid, et puis construire l'unité politique, économique, etc. des musulmans. Et ça a commencé. Et on a vu émerger des réformateurs partout dans le monde musulman. Hein. Ça a commencé de l'Inde jusqu'à l'Orient, jusqu'en Afrique du Nord. Jusqu'en Afrique en bas. Des mouvements, tous, ils parlent le même discours. Réforme, revivifier, al-ilm, la science, combattre l'ignorance, la colonisation, l'ingérence. Et puis, nous, on était dans ce combat-là, hop, on nous a fait sortir des trucs, divergence sur les questions secondaires, comment tu fais la prière, tu ne fais pas comme moi, et pourquoi tu ne fais pas comme moi, et tout ça. Et puis, on nous a de nouveau lancé leurs questions, sifatul asma ou kulha, et on a commencé à perdre notre temps là-dedans. Et donc, ça a engendré quoi? Division de nouveau. C'est pour ça, honnêtement, moi, c'est dans le cadre du cours que je vous en parle. Mais personnellement, je ne discute jamais de ces choses-là en dehors. Et si quelqu'un vient me provoquer, je ne parle pas. Je suis un ignorant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. La salive, l'énergie, l'énervement, l'argent et tout pour débattre de ça. Et après, qu'est-ce qu'on va gagner? Rien. Honnêtement, donc moi si j'ai soulevé ça dans le cadre de ce cours, parce que c'est une formation quand même, vous êtes des universitaires, quoi, un peu académique, vous devez savoir de quoi il s'agit, mais il ne faut pas perdre votre temps sur ça. Hein. Et moi, devant Dieu, je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire avec ça. Moi, je vous transmets, mais ne perdez pas votre temps. Vous n'allez pas commencer à débattre au téléphone ou des réunions et tout. Non, c'est peut-être dans l'erreur, c'est dans le juste, etc. Ne perdez pas votre temps. Vous choisissez celui de Salaf al-Salah, vous y croyez et vous faites passer et vous acceptez l'interprétation globale de certains versets. Vous êtes dans le droit chemin. Vous voulez suivre le chemin de l'Khalaf, pour moi, ça fait partie de l'Ahl Sunnah wal Jama'a, parce qu'il s'agit quand même, comme je vous ai dit, de Ulama al-Umma, qu'on doit respecter, et point à la ligne. Et moi, toujours, je dis, nous, les musulmans sunnites, on a deux tendances. Je dis comme ça, deux tendances, et j'insiste sur le mot deux. Parce qu'il y en a ceux qui disent, il n'y a qu'une seule. Et les Khalaf sont dans l'égarement, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas parti des Khalaf, je ne suis pas leur tendance, je suis la position de Salaf al-Salah, mais je dis qu'il y a des versets interprétés nécessairement comme ceux de Sama, ça n'a rien à dire. Dans mon livre, là, de l'exégète sur le Tabarak, j'ai pris ce sens-là. J'ai mis, les exégètes ont dit, Amen ton mafus Sama, c'est-à-dire soit la colère de Dieu, soit l'ange Gabriel. Je suis allé dans ce sens. J'ai respecté ce principe. Mais les autres, je traduis la main de Dieu, etc. J'entre pas, ni le comment, ni j'entre pas dans le détail. Mais, je suis respectueux des ulama al-umma, parce que je ne leur vaux pas. Et je ne suis pas capable de venir dénigrer ni les mêmes Nawawi, ni l'imam Ibn Kathir, ni personne. Je ne suis pas vous, moi. Je respecte ces savants de la Umma. Et celui qui veut débattre, je n'ai pas de temps à perdre avec lui. Ils sont deux tendances. Tu adhères à la première, Mabrouk Alik. Tu adhères à la deuxième, Mabrouk Alik. Mais si tu es de ceux qui interprètent, alors je ne suis pas d'accord avec toi, je suis contre. Moi, je n'adhère pas à ceux qui disent « Dieu rit comme nous ». Ça, hors de question. Parce que là, c'est l'interprétation harfiya qui est catastrophique et qui est grave. Voilà. Mais vous allez être amené de rencontrer des gens qui veulent vous emmener à discuter. Ne perdez pas votre temps. C'est le conseil que je vous donne. Ne perdez pas votre temps. Ça, c'est une perte d'énergie. Ça en résulte de l'énervement. Ça en résulte de la division. Ça résulte des rancunes. Et nous n'avons pas besoin de ça. Et c'est une amane. Non.
J'ai quand même l'impression qu'il y a trois tendances.
Non, celle-là, l'harfiya, elle n'a pas de valeur.
Non, mais aujourd'hui.
Elle existe chez quelques-uns, mais elle n'est pas une tendance à prendre en considération. Elle est dangereuse, mais moi, je ne la prends pas en considération. La deuxième question, rapidement, parce qu'on doit conclure.
Il y a de la part du verset, donc, la tendance de l'harfiya.
Non, Tashbih était depuis le début. Ah oui, mais maintenant elle est en train d'émerger de nouveau, sous forme pas de tashbih, mais de harfi, on les appelle littéralistes.
Elle existe à l'époque des salafs.
Oui, mais elle ne s'appelait pas comme ça, elle s'appelait tashim ou tashbih, c'est encore pire. Maintenant ils ne veulent pas s'appeler, mais en vérité, si on analyse, on va trouver qu'ils sont presque des mujassima. Hein. Mais je n'ai pas envie de le dire. Parce que si je le dis, vous allez m'accuser de traiter les gens de kofar, non, moi je ne dis jamais ça. Deuxième question, Asina, qu'on peut conclure.
C'est le commentaire d'en Fatih al-Bari sur le hadith de.
Al-Jariya.
Le hadith de Jariya aussi, le hadith de Farh. C'était quoi le.
Il va dans ce sens-là. Dans le sens de l'imam al-Nawawi. Ah oui, tous ils vont dans ce sens-là. Autre question. Bien. Nous allons conclure pour libérer les sœurs, parce que vous êtes. Oui. Lawh al-Mahfouz, lawh. Si tu prends le livre des sciences du Coran, tu vas trouver les descendants du Coran. Tout le monde est unanime que le Coran, il y a eu plusieurs descendants du Coran. Le Coran est descendu de Dieu vers la lawh al-Mahfouz. Et de lawh al-Mahfouz vers Bayt al-Azza. Et de Bayt al-Azza sur le cœur de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Soit par l'intermédiaire de l'ange ou sans l'intermédiaire de l'ange. Donc il y a trois descentes. Et ça, c'était pendant le ramadan. La descente de Bayt al-Azza, ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'était pendant le ramadan, Laylat al-Qadr. Mais il y a eu trois descentes. Min Allah, ila al-Lawh al-Mahfouz, min al-Lawh al-Mahfouz, ila Bayt al-Azza, Bayt al-Azza ala qalbi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bi wasitati al-Jibril, ou son wasita. C'est pour ça qu'il faut que lisez vraiment ce livre, les sciences du Coran. Là, vous avez Tanzil al-Qur'an, etc. Donc, Lawh al-Mahfouz, dans lequel Dieu a prescrit tout ce qui s'est décrit. Comment il est, je n'en sais rien. Et il ne faut pas se poser des questions, il s'agit d'une table ou quoi. Je n'en sais rien. Ça, ce sont des choses qu'on dépasse et qui fait partie de l'imam Bel-Ghaïb. Ça va? Wallahu a'lam. Nous concluons, inshallah ta'ala. Donc, nous verrons, donc, si Dieu le veut, après donc, le congé, inshallah ta'ala. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallit ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا اجعلنا مخلصين لك الدين ولو كره الكافرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ديننا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعلنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم شفعه فينا يوم نلقاه اللهم ارض عنا ورضنا واجز عنا الصحابة الكرام خير الجزاء واجز عنا اللهم التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خير الجزاء اللهم واجز عنا من له فضل علينا ومن علمنا خير الجزاء واجز عنا والدينا خير الجزاء اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالدي والدينا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وبارك لنا في إخواننا وأخواتنا وألف اللهم بين قلوب المسلمين وانصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية ودوام العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك في البدء والختام على سيدنا محمد خير الأنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.